Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, il sera question d'antispécisme. C'est un thème que nous voulions aborder depuis longtemps et nous le ferons en présence de l'historien Jérôme Segal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, vous êtes aussi chercheur et journaliste à Vienne et vous venez de publier aux éditions Lux un ouvrage au titre claquant, Animal radical. Le sous-titre explicite peut-être davantage le propos. Il s'agit d'une histoire et d'une sociologie de l'antispécisme. Donc l'antispécisme, vous allez le présenter mieux que moi. Vous l'avez analysé en remontant à ses origines historiques. Vous décrivez aussi dans cet ouvrage les différentes mouvances, puisqu'il ne s'agit pas d'un mouvement totalement homogène. Je précise, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est que vous le dites vous-même dans l'ouvrage, vous écrivez ce livre en assumant que vous êtes vous-même antispéciste. En même temps, on n'est pas face à un manifeste ou à un plaidoyer pour l'antispécisme. Vous avez fait un travail de sciences sociales qui tente précisément d'objectiver ce qu'est ce courant politique et donc en allant y compris analyser, discuter les aspects peut-être les moins reluisants aussi de ce courant. Alors peut-être que la meilleure façon d'entrer dans le sujet, c'est de commencer par essayer de définir ce qu'est le spécisme et l'antispécisme, mais aussi tout de suite, je pose la question du véganisme et du végétarianisme parce que c'est une distinction que vous faites d'emblée dans le livre en expliquant, moi je l'ai compris comme ça, que le véganisme relevait peut-être plutôt davantage d'un mode de vie, voilà, d'une pratique alimentaire, mais sans forcément avoir de dimension politique, alors que précisément l'antispécisme, tout comme l'antiracisme ou l'antisexisme, hein, il y a une homologie comme ça dans les dénominations, relève d'un mouvement proprement politique. Est-ce que c'est la bonne façon de le résumer? Et sinon, comment est-ce qu'on doit définir spécisme et antispécisme?
Oui, ce que vous avez dit est très juste. En fait, on peut préciser que ça remonte à l'Antiquité. Dès l'Antiquité, il y a des penseurs qui se disent qu'il n'est pas forcément bon de faire du mal aux animaux. Et on peut penser par exemple à Pythagore, au 6e siècle avant notre ère, qui introduit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le régime végétarien, qui consiste à ne pas manger ni de viande ni de poisson. Mais en fait, c'est jusqu'au début du XXe siècle, on appelait ce régime le régime pythagorien. Donc ça montre vraiment l'influence qu'a eu Pythagore. Donc je pense qu'être végétarien, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Ensuite, il y a toujours dans les régimes, donc ça concerne uniquement l'alimentation, il y a le régime végétalien, qui exclut tous les produits d'origine animale, donc on enlève les œufs, on renonce aussi à tous les produits laitiers. Et après, être vegan, c'est encore un petit peu autre chose, parce que là, on quitte le simple domaine de l'alimentation, et les véganes vont aussi refuser tout ce qui est lié à l'exploitation animale. Donc les véganes ne vont pas aller dans les zoos, qui sont pour eux des prisons pour animaux, ne vont pas faire d'équitation, ne vont pas voir de spectacle de corrida. Donc ça, ce sont les véganes qui vont aussi renoncer, par exemple, au cuir, qui est un produit qui vient de l'exploitation animale. Et les véganes, comme vous l'avez dit, c'est un peu un mode de vie, c'est quelque chose qui est consumériste, c'est une attitude qui revient à boycotter. Donc le boycott n'existe que dans la mesure où il y a une société de consommation, où on peut se démarquer à travers nos choix de consommateurs, de consommateurs, on lit parfois. Et les antispécistes, eux, sont dans une attitude plus politique et philosophique. Donc le mot antispéciste est calqué, comme vous l'avez dit, sur antiraciste ou bien antisexiste. Et c'est donc identifier le spécisme comme une théorie visant à traiter de façon moins juste des espèces différentes, c'est-à-dire justifier des persécutions contre certaines espèces au motif que ce ne sont pas des homo sapiens, par exemple. En général, c'est ça ce dont il s'agit. Les antispécistes donc, pensent qu'on doit simplement prendre en compte les intérêts de tous les animaux. Et pour ça, ils introduisent un autre terme qui est la sentience. Et après, je crois qu'on en aura fini pour tout ce qui est le vocabulaire spécifique à cet échange. La sentience, c'est la capacité d'un animal à être sujet de sa vie, avoir des émotions. C'est-à-dire, c'est pas seulement ressentir la douleur, c'est avoir un caractère. N'importe quelle personne qui possède un animal de compagnie, un chien, un chat, va bien remarquer que certains chiens, certains chats ont des caractères différents. Bon, ben, c'est pareil pour les vaches, c'est pareil pour les cochons, et il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est des habitudes culturelles, pour décider qu'on va créer des cliniques vétérinaires, des rayons entiers dans les supermarchés, de nourriture pour chiens et chats. Alors que, en France, 95% des porcs ne verront jamais la lumière du jour, seront élevés sur caillebotis dans des conditions assez dures. Et donc ça, c'est le spécisme. Et donc les antispécistes s'attaquent au spécisme.
Donc le projet de société, si on essaye de le définir de manière un peu concrète, le projet de société des antispécistes, à quoi est-ce qu'il ressemble? C'est une société sans animaux domestiques, sans élevage? Est-ce que c'est sans expérimentation sur les animaux, y compris à des fins médicales, sans zoo et sans corrida évidemment? Est-ce que ça ressemble à ça?
Alors sur les animaux de compagnie, en général, c'est un sujet qui fait un petit peu débat parmi les antispécistes, mais en général, on peut imaginer pouvoir vivre avec des animaux de compagnie. Il y a des gens qui sont antispécistes, qui ont des animaux de compagnie, par exemple, qui sont sauvés des refuges, parce que dans les refuges, les animaux sont euthanasiés, tués. Au bout d'un certain temps, si personne ne vient les adopter, donc il y a des gens qui disent, bah, moi, je vais quand même adopter un animal dans un refuge pour qu'il puisse vivre, et puis je vais bien le traiter, il va être à la campagne, il pourra, etc., etc. Après, il y a la question de l'alimentation. Évidemment, en général, les antispécistes ne donnent pas d'alimentation animale aux animaux qu'ils adoptent, mais c'est tout à fait possible pour les chiens, par exemple, très facilement, de ne pas leur donner de produits animaux. Concernant le projet de société, en fait, il y a un livre qui fait vraiment date dans la pensée antispéciste. C'est un livre de deux philosophes canadiens qui s'appelle Zoopolis, donc imagine la ville dans laquelle les humains sont avec des animaux. Donc il y a trois types d'animaux. Il y a des animaux qui ont un statut de citoyen, même s'ils ne sont pas des citoyens et qui n'ont pas le droit de vote. Personne ne va demander à ce que les poules puissent voter, mais à ce qu'on puisse reconnaître des droits à ces animaux qui vivent avec nous. Des animaux qui seront souverains dans certains espaces, sont les animaux sauvages, et des animaux liminaires, comme par exemple les rats, les pigeons, tous ces animaux qui vivent au contact en fait des sociétés humaines. Et l'idée de Zoopolis, c'est justement d'éviter de maltraiter ces trois types d'animaux. Évidemment, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de corrida, il n'y aura pas de torture inutile d'animaux sentients.
Est-ce que c'est une société dans laquelle la consommation de viande en fait a été finalement supprimée, abolie pour l'ensemble de la population? Ou est-ce que c'est ça l'objectif en fait
En fait, nécessairement, on pourrait imaginer de manger des animaux qui sont morts de leur belle mort, comme on pourrait décider de manger des humains qui sont morts. Pourquoi pas, il n'y aurait pas d'obstacle moral à manger des animaux morts, mais évidemment, il n'y aurait pas d'élevage, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas l'idée qu'on va engraisser des animaux pour ensuite les tuer et les manger. Il faut d'ailleurs savoir que dans l'élevage, en fait, tous les animaux qui sont mangés sont des animaux qui sont tout juste adolescents. L'espérance de vie d'une vache, d'une poule, c'est 20 ou 13 ans. Les poulets qu'on achète au supermarché, ils ont vécu 6 semaines. Donc il leur reste encore énormément de durée de vie devant eux. Donc dans une société antispéciste, évidemment, on ne procéderait pas à l'élevage, quoi. L'idée même d'engraisser des animaux pour les manger, ne serait pas admise.
Il y a un point que je voudrais clarifier, c'est que là, toutes les pratiques que vous pointez sur les porcs qui voient jamais la lumière, sur tous ces animaux qu'on tue avant qu'ils soient arrivés à l'âge adulte, et puis aussi sur tous les mauvais traitements, en fait, tout simplement, qu'on pratique auprès de tous les animaux d'élevage et encore plus d'élevage industriel, on peut être contre toutes ces pratiques-là, sans être forcément antispéciste, c'est-à-dire en continuant de penser que malgré tout, il y a une différence fondamentale et peut-être même en fait une hiérarchie entre les humains et les autres types d'animaux non humains. Ou pour vous, si on s'oppose à ces pratiques, c'est forcément qu'on adhère à la philosophie et la politique antispéciste.
Bah,
Comment?
pour les antispécistes, il n'est pas question de tuer des animaux pour le plaisir. Le plaisir gustatif ne justifie en rien de tuer des animaux. Donc, il n'y a pas de bon élevage. Il y a des gens qui disent, oui, je mange de la viande, mais que d'un petit éleveur que je connais, qui traite bien ses bêtes. Les éleveurs qui disent qu'ils aiment leurs bêtes. Souvent, les antispécistes leur répondent et vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, et vous n'allez pas les tuer. Donc, il n'est pas tellement concevable pour un antispéciste qu'il existe des bons élevages, quoi.
Donc il y a vraiment, c'est ça, dans l'antispécisme, il y a quand même une position philosophique, on va dire, forte, parce que là, la comparaison que vous faites revient à finalement quand même mettre sur le même plan les êtres humains, ma femme, mes enfants, mon mari, que les êtres sentients, comme vous disiez les autres animaux.
Oui, tout à fait.
Là-dessus, il y a vraiment une opposition à presque, enfin, je sais pas, 2 millénaires d'histoire
Oui.
de la civilisation européenne, mais
En
peut-être
fait,
plus, qui fait une distinction quand même entre les humains et les animaux, tout comme elle fait une distinction entre les animaux et les choses et les objets.
Oui.
Et ça, cette distinction entre humain et non-humain, elle est de manière radicale remise en question, c'est ça?
Voilà. Alors, vous avez mis le point sur, vous avez mis vraiment l'accent sur un point essentiel, c'est que il ne s'agit pas de dire l'homme est égal à la poule. Il n'y a pas d'égalité entre les espèces. Toutes les espèces sont différentes. Le guépard court plus vite que l'homme. Le chimpanzé a une meilleure mémoire immédiate que l'homme. On peut voir facilement en ligne sur YouTube des vidéos où un chimpanzé, par exemple, retrouve l'ordre de 9 chiffres. Il y a une grille de 3 sur 3. Les 9 chiffres sont posés et on les voit que pendant une demi-seconde. C'est comme un flash. Et le chimpanzé est capable de retrouver l'ordre, de montrer avec son doigt 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 9. L'homme en est incapable. Donc on ne peut pas dire qu'il y a égalité. Il y a des facultés différentes. Il y a des hommes qui sont capables de construire des cathédrales, il y en a qui écrivent des symphonies. Les animaux non humains ne font pas cela, mais ils font quand même d'autres choses. Donc il ne s'agit pas du tout de se mettre, de penser en termes d'égalité, mais de penser en termes de respect des intérêts essentiels. Et un de ces intérêts, c'est l'intérêt à vivre. Il n'y a pas de raison de, comme je le disais tout à l'heure, d'interdire d'exercer des sévices sur un chien et de permettre ça sur un porc ou sur un veau. Et pour un antispéciste, c'est justement le spécisme qui fait qu'on va dire le canard, on peut le gaver, le torturer, le créer une maladie volontairement au niveau de son foie pour faire du foie gras. Et puis par contre, pour le chat, il interdit d'exercer des sévices dessus. Donc l'idée est vraiment pas de penser en termes d'égalité, mais de penser en termes de respect des intérêts fondamentaux. Et l'intérêt le plus fondamental, c'est celui de vivre, donc de ne pas tuer les animaux.
D'accord. Mais vous disiez tout à l'heure ne pas tuer par plaisir, et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on peut, enfin, qu'on est tous en mesure d'entendre assez facilement. Mais tuer pour se nourrir, par exemple, on sait qu'il y a des dans l'alimentation carnée, il y a par exemple la vitamine B12, qui est quelque chose d'important, notamment pour le développement du système neuronale, cette vitamine, on la retrouve pas, on n'en trouve pas d'équivalent dans les légumes, les fruits, etc. Est-ce que là, du coup, on tue, mais c'est pas par plaisir, c'est pour se procurer une vitamine qui répond à un besoin vital, en fait, du développement humain. Du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?
Alors là, la réponse est vraiment très simple. Aujourd'hui, la vitamine B12, elle est synthétisée. Plus de 90% de la production de vitamine B12 est donnée aux animaux. C'est-à-dire que plus de 90% de la vitamine B12 est donnée essentiellement aux porcs et aux vaches et aux bœufs, qui ensuite sont mangées par les personnes qui mangent ces animaux-là. Donc la vache, c'est une enveloppe de vitamine B12. Et ce que font les véganes, puisque là on parle de l'alimentation, c'est qu'ils mangent directement la vitamine B12.
Sous forme
Voilà,
de gélules.
sous forme de gélules. Bon, moi
D'accord.
personnellement, j'ai choisi d'en prendre toutes les 2 semaines avec un certain dosage. Il y a des véganes qui en prennent tous les jours avec un dosage inférieur. On peut en prendre tous les mois. Ça coûte d'ailleurs rien du tout, hein. Mes dépenses en B12, c'est de l'ordre de 1 ou 2 euros par mois. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Et de toute façon, ça me coûterait plus cher si je devais acheter des morceaux de vache qui ont, eux, pris la B12. Donc, de dire l'être humain a besoin de B12, et effectivement, l'être humain a besoin de B12, ne justifie en rien de manger des vaches. Autant prendre la B12 directement plutôt que de donner la B12 à la vache qui ensuite est mangée par l'homme. Parce que historiquement, la B12 est produite par les animaux lorsqu'ils broutent de la terre, que la B12 se développe dans la terre. Et jusqu'à l'arrivée de l'agriculture industrielle, les animaux mangeaient un petit peu de terre parce qu'en broutant l'herbe, il y avait un petit peu de terre aussi qui était absorbée. Et c'est comme ça que les animaux avaient de la B12 et que donc les humains avaient de la B12 en mangeant les animaux. Mais maintenant, quitte à prendre des gélules, autant les prendre directement.
D'accord. Alors, je viens sur la question des essais cliniques, des expérimentations médicales qui peuvent être faits sur les animaux, parce que ça aussi, c'est un point qui me pose question, c'est qu'il y a quand même beaucoup de progrès médicaux qui sont faits, parce qu'en fait, dans les premiers stades de la recherche, voilà, on fait ça. Je ne sais pas, sur des souris, sur des mammifères, enfin peu importe, mais en tout cas, on ne le fait pas au premier stade d'expérimentation sur des humains, puisque justement, il y a des risques forts. Est-ce que les antispécistes sont pour qu'on arrête ce type d'expérimentation de manière catégorique, sachant que le prix à en payer, du coup, c'est un ralentissement en tout cas, un frein vis-à-vis des progrès de la médecine,
En fait, pour écrire ce livre, j'ai mené 28 ou 29, je ne sais plus, entretiens. Et je n'ai pas tellement abordé ce sujet-là de l'expérimentation animale. De ce que j'ai pu lire, les antispécistes demandent à ce qu'on mette le paquet sur le plan financier pour développer des alternatives à l'expérimentation animale. Ça fait partie, par exemple, des propositions du Parti animaliste qui commence un petit peu à émerger en France, avec des résultats assez importants aux dernières élections.
Ça fait 2%, je crois, aux
Voilà,
élections
c'est ça.
européennes, ce qui, pour un
Voilà, c'est
parti
ça, un peu plus de
assez
2%.
jeune et puis qui
Voilà.
porte spécifiquement sur la
Ouais,
cause animale
c'est ça, c'était assez notable. L'idée, c'est par exemple de développer les expériences avec les cellules souches. C'est-à-dire qu'on peut créer en laboratoire, avec les cellules souches humaines, des modèles qui permettent des expérimentations beaucoup plus réalistes que ce qu'on aurait avec les animaux. Si on fait par exemple des essais sur la tolérance du foie à certaines molécules qu'on développe pour créer des médicaments, il est plus intéressant de pouvoir développer du foie humain en laboratoire avec des cellules souches qui vont se développer en foie plutôt que de prendre un foie de porc. Mais quoi qu'il en soit, si on considère que chaque jour en France, 3 millions d'animaux terrestres sont tués, c'est à 99,9% pour l'alimentation. Et donc, ce n'est pas prioritaire de se concentrer sur
D'accord, c'est pas
l'expérimentation
là.
animale, puisque c'est quasi anecdotique par rapport à l'importance énorme des animaux qui sont tués pour l'alimentation. On parle
D'accord.
de 3 millions par jour en France d'animaux terrestres, et entre 60 et 70 milliards dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important.
D'accord, ok. Donc c'est pas ça le premier combat des antispécistes. Je voudrais revenir sur la notion de sentience que vous mobilisiez tout à l'heure, parce que je crois que là on touche vraiment à quelque chose de très important. Donc moi je l'avais compris au départ, la sentience comme étant la capacité d'un être à ressentir de la souffrance, mais c'est même plus que ça en fait. C'est une forme de c'est une forme de capacité à ressentir les choses, les émotions au-delà de la simple souffrance. C'est une forme de conscience aussi, c'est ça, cette
Oui,
dernière?
il y a un philosophe qui s'appelle Tom Regan qui définit la sentience comme la capacité d'un animal à être le sujet de sa propre vie. Et là encore, les éthologues nous apportent des informations vraiment très importantes. On voit par exemple que des dindons aiment bien jouer avec une balle. Bon, jouer au foot, ce serait un peu exagéré de le dire, mais qu'ils ont plaisir à pousser une balle chacun son tour, qu'il y a des phénomènes très complexes parmi les différentes, je sais pas si on prend les dauphins, si on prend les chimpanzés, mais même parmi les vaches, parmi les poules. Voilà, le plaisir de se frotter dans la terre. Donc ces animaux ont du plaisir, ont une vie, un caractère, sont des individus. Il y a aussi dans différents pays des animaux qui ont été reconnus comme personnes. Dans un pays d'Amérique du Sud, je crois que c'est en Argentine, un grand singe qui a été libéré, entre guillemets, d'un zoo parce que c'était une femelle, elle a été reconnue comme personne. Donc la sentience, c'est effectivement quelque chose qui va assez loin et qui montre qui rappelle que l'homme est un primate et que il y a d'autres primates qui ont aussi des caractères, des propriétés propres. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cette rupture qui consiste à remettre en cause le fait que l'homme est vraiment supérieur à tous les autres animaux. Cette idée d'ordonnancement, c'est quelque chose qui est vraiment issu de la tradition religieuse judéo-chrétienne. Voilà, on lit dans la Genèse 1:28 que voilà, tous les animaux sont créés pour l'homme qui peut en disposer à sa guise. Et même sur ce point de vue, d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, juste après vient 1:29 dans lequel Dieu, donc pour ceux qui y croient, dit à l'homme qu'il pourra se nourrir de tout ce qui pousse sur la terre. Et donc tout ce qui pousse, c'est vraiment les végétaux. Et donc il y a des religieux que j'ai rencontré en Israël, une communauté assez spécifique de gens qui pensent que Dieu, en fait, a certes créé les animaux, mais pas pour qu'on les mange, et que ce sont les végétaux qui doivent être mangés.
D'accord. Mais je vous posais cette question sur la sentience parce que dans le projet antispéciste, qu'on peut aussi caractériser comme un projet de libération animale, il s'agit quand même de libérer un certain type d'animaux qui sont justement précisément ceux qui sont dotés de sentience. Et donc en fait, tous les animaux ne sont pas non plus là englobés dans ce projet de libération. Et donc du coup, j'espère que je suis clair, mais j'ai l'impression finalement que je me demande dans quelle mesure l'antispécisme ne reconduit pas une forme de spécisme simplement en déplaçant la frontière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en gros, la frontière spéciste, elle place les humains au-dessus de tout le règne animal. Et ce que font les antispécistes, en fait, ils ne sont pas si antispécistes que ça. C'est juste que la frontière, ils la mettent ailleurs. Ils vont mettre dans une catégorie plus élargie qui a la prééminence. Ils vont mettre aux côtés des humains, bon, bah voilà, les mammifères, tous
Les
les animaux,
vertébrés.
les vertébrés, tous les animaux capables de sentience. Mais par contre, en deçà, ils vont laisser tous ceux qui ne sont pas capables de sentience. Il y en a beaucoup aussi. Et du coup, est-ce qu'il ne s'agit pas quand même aussi d'une forme de hiérarchisation et de césure
Tout à fait.
pas entre deux espèces, mais entre deux grandes catégories d'espèces, quoi.
Une forme de césure, assurément. Si on pense par exemple à une éponge de mer, une éponge de mer n'a pas de système nerveux. C'est un animal, mais qui est quand même très proche du végétal. Et pour les antispécistes, il n'y a pas de problème à utiliser une éponge de mer pour les besoins de l'homme, comme pour les besoins éventuellement d'autres animaux. Il y a le même débat sur les bivalves, les coquillages bivalves, comme les huîtres ou les moules. Ces animaux n'ont pas de cerveau, n'ont pas de système nocicepteur capable de ressentir la douleur. Et donc, on peut, enfin, certains, là encore, c'est quelque chose qui fait débat parmi les véganes. Il y en a qui se disent, dans le doute, je préfère ne pas en prendre. Et d'autres qui disent, bah, jusqu'à preuve du contraire, les huîtres ne ressentent pas la douleur, donc on peut en manger. Mais vous avez raison, c'est pas du spécisme dans la mesure où on ne crée pas de souffrance. L'idée des
Exact.
antispécistes que j'ai rencontrés, ce qu'ils me disent, c'est je suis sur Terre pendant 80 et quelques années et je voudrais réduire autant que possible la souffrance générée sur Terre. Et donc, je ne vais pas faire de mal à un chien, je ne vais pas faire de mal à un cochon. Par contre, pour une éponge de mer, ça m'embête pas, ou pour une bactérie. Dans notre intestin, on a des millions de bactéries qui sont aussi des êtres vivants du règne animal. Et les bactéries ne souffrent pas, donc il n'y a pas de souci particulier à éliminer des bactéries, quoi.
Et qu'est-ce qu'on fait de... Parce que dans le règne animal, il y a d'autres espèces qui sont carnivores. Bon, alors c'est un point anecdotique, vous l'abordez, mais en quelques lignes dans le livre, et je comprends que, enfin voilà, le lion qui mange la gazelle, effectivement, ça peut paraître vraiment dérisoire par rapport aux millions d'animaux qui sont abattus chaque jour, presque chaque heure, dans les abattoirs. Mais quand même, d'un point de vue philosophique, ça pose une question. C'est que si le projet, qui est quand même assez radical, c'est de mettre fin à toute forme de souffrance vis-à-vis des êtres qui peuvent souffrir, bon, bah, du coup, nous, en tant qu'humains, voilà, on est amenés à remettre en cause radicalement tout un tas de pratiques qui sont les nôtres. Mais qu'est-ce qu'on fait voilà, du loup qui va chasser les brebis, du lion qui va chasser la gazelle? Et est-ce que là, d'ailleurs, il n'y a pas quelque part la preuve que, bah oui, ça fait partie de la souffrance de certains animaux, en l'occurrence la gazelle? Elle a quelque chose de naturel. Enfin, elle fait partie du cycle normal de la vie, d'un écosystème. Et du coup, dans le projet antispéciste, s'il amène à s'interposer entre le lion et la gazelle, pour empêcher le lion de commettre, de se servir son steak de gazelle, il y a quelque chose de très, pour le coup, de très interventionniste et presque de l'homme vraiment, pour le coup, enfin, plus suprémaciste encore qu'aujourd'hui, puisqu'il intervient justement là où, a priori, on peut penser, en tout cas spontanément, moi par exemple, c'est ce que je pense, c'est qu'on n'a pas à s'interposer entre le lion et la gazelle.
Mais ce que vous dites est vraiment très intéressant parce que ça évoque un point essentiel qui est le rapport à l'écologie et à la nature. Les antispécistes sont parfois en conflit avec les écologistes. Pour les écologistes, par exemple, s'il y a une population de 50 chevreuils dans un massif, que chaque année les chasseurs en tuent 20 et qu'il y en a 20 qui apparaissent par la reproduction naturelle, parfait, l'écosystème est conservé, il y a 50 chevreuils, 20 pour les chasseurs et puis 20 qui naissent naturellement, il n'y a aucun problème. Pour les antispécistes qui sont contre la chasse, il n'y a aucune raison de tuer les chevreuils, que ça crée de la souffrance, ça crée de la peine. Enfin, tout le monde a vu Bambi, quoi. Les mamans chevreuils ne sont pas contentes de voir leur bébé tué. Donc là, vraiment, ce qui est important, c'est que les écologistes sont un peu naturophiles, naturolâtres, on pourrait dire. La nature est bonne en soi. Or, pour les antispécistes, la nature, c'est aussi la sécheresse, les tremblements de terre, les volcans. La nature n'est ni bonne ni mauvaise pour les antispécistes. Ce qui compte, c'est, là encore, la souffrance sur Terre. Et pour un antispéciste, effectivement, c'est pas souhaitable que les gazelles se fassent déchiqueter de façon souvent assez horrible par les lions, ou plus précisément les lionnes, qui je crois sont plus chasseresses que les lions. Et la question de l'intervention, pourquoi pas? L'homme a la capacité d'intervenir. L'homme a surtout d'abord la capacité de changer son propre régime alimentaire. Le lion ne peut pas se préparer de steak de tofu. L'homme a la possibilité de manger des céréales et d'être en parfaite santé sans produits d'origine animale. Donc, à partir du moment où il a cette possibilité, qu'en plus, on en parlera peut-être, ça permet de résoudre des problèmes écologiques très très importants, puisque l'élevage, c'est 14,5% de la production de gaz à effet de serre d'origine anthropique générée par l'homme. Donc, puisque l'homme peut faire ça, qu'en plus c'est bon pour la planète, que c'est bon pour sa santé par rapport au cholestérol, à l'obésité, à toutes les maladies qui sont liées à la consommation de graisse animale, l'homme n'a pas de raison de continuer à manger des produits d'origine animale. Le lion, lui, il ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas parce que le lion mange la gazelle que l'homme doit aller chasser dans les allées du supermarché pour prendre sa barquette de viande. J'aime bien rappeler les gens qui me disent « je suis comme le lion qui mange la gazelle ». Lorsque deux lions se rencontrent, ils se reniflent l'anus pour faire connaissance. Nous, on ne fait pas la même chose, on préfère échanger nos adresses mail ou nos numéros de téléphone. Donc voilà, ce n'est pas parce que dans la nature, le lion fait ci ou ça que l'humain doit faire pareil. Et la question de l'intervention, là encore, c'est un sujet très débattu parmi les antispécistes. Il y a un groupe, c'est le RWAS, donc Reducing Wild Animal Suffering, donc réduction de la souffrance des animaux sauvages. Ça peut tout à fait se concevoir en faisant un bilan un peu en termes de souffrance. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de lions et que du coup moins de gazelles souffrent? Est-ce qu'on peut proposer des mangeoires pour les lions dans les parcs régionaux d'Afrique australe en leur donnant autre chose que de la viande? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui est un sujet qui est ouvert, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas non plus le sujet primordial, quoi.
Vous y revenez dans le livre, vous citez plusieurs extraits d'entretiens, vous l'avez dit, vous avez réalisé une trentaine d'entretiens avec des militants antispécistes, alors en France, au Québec, c'est ça, et puis en Israël surtout. C'est quoi, est-ce qu'on peut, est-ce que vous avez identifié un profil, est-ce qu'il y a un profil qui se dégage un peu, un profil sociologique, je veux dire, des militants antispécistes? Et pour mettre les deux pieds dans le plat, est-ce que c'est pas un mouvement qui est essentiellement bon, porté par une certaine classe sociale quand même plutôt privilégiée? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur aujourd'hui, voilà, les militants et les militantes antispécistes en termes de profil?
Ouais. Alors, en termes de profil, bon, il y a plusieurs choses à dire. En ce qui concerne les points communs, j'ai noté que souvent, il y avait des militants qui avaient vécu un traumatisme dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Et ça, c'était pour moi vraiment intéressant parce que j'ai rencontré, par exemple, Armeli Karakim, c'était en Israël, dans le village d'Amirim. Et il fait partie c'est le seul survivant à cause de son âge, parmi les fondateurs du village d'Amirim, qui dans les années 50 a été le premier village végétarien en Israël. Et il me raconte comment il a été traumatisé de voir son père tuer un poulet, et avec le sang partout, etc., et que ça l'a vraiment choqué. On trouve la même chose avec David Olivier, qui est une figure majeure de l'antispécisme en France, qui me raconte qu'il était à Zagreb et que avec les phénomènes de marée, il y avait des poissons qui se retrouvaient dans une mare et les habitants venaient et tuaient les poissons de façon assez dure, que ça l'a marqué et qui s'est dit, mais pourquoi les gens font ça? Le poisson n'a pas envie d'être tué, d'être sorti de l'eau, asphyxié, etc. Et donc, pareil, à Montréal, une femme que j'ai rencontrée qui était originaire de Colombie, qui a assisté aussi à l'agonie d'animaux tués sur un marché pour faire de la viande. Donc ça fait partie des points communs. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui deviennent antispécistes parce qu'ils ont lu Franz Deval, par exemple, sur tout ce que peuvent faire les animaux, comment les animaux ont des capacités intellectuelles, etc. Et du coup, on vient à l'idée qu'il ne faut pas les manger. Concernant les profils plus sociologiques, franchement, il y a de tout. Pendant 6 mois, j'ai été avec un groupe de 269 Live, donc une des associations radicales. On reviendra peut-être un peu sur le terme de radicalité. Donc, ça ne veut pas dire du tout violente, mais des gens qui veulent vraiment marquer un petit peu la population à travers des happenings ou des choses comme ça. Et dans le groupe, il y avait il y avait plus de la moitié des gens sur une dizaine qui étaient plutôt des gens pauvres, pour dire les choses simplement. Une femme qui habitait en grande banlieue. Il y avait une action le 1er novembre sur la petite place à côté du Louvre. J'ai oublié son nom. L'idée, c'était de montrer la mort d'animaux dans les abattoirs, le jour où les humains, en fait, voilà, se souviennent des morts qui leur sont chers. Et cette personne ne pouvait pas venir parce qu'elle n'avait pas l'argent pour les 10 euros qu'il fallait pour venir à Paris depuis la grande banlieue. Il y en avait deux que j'ai vus, que j'ai interviewés, qui sont au RSA.
D'accord.
Il y a des militants de Boucherie Abolition qui ont des petits boulots. Je pense même que la majorité des gens sont plutôt des gens assez peu aisés financièrement. Après, il y a peut-être quelques personnes plus à l'aise, mais franchement, pas beaucoup. Et
D'accord.
surtout aussi sur le côté urbain-rural, les actions sont plus menées dans les villes parce qu'on touche plus de gens. Lorsqu'on fait par exemple un cube de vérité, c'est une Anonymous, c'est une de ces associations. Anonymous for the Voiceless, donc Anonymous pour ceux qui n'ont pas de voix, qui sont les animaux. Ils mettent des masques d'Anonymous, ce masque qu'on connaît tous maintenant, le masque blanc. Et ils se tiennent debout en forme de carré avec des écrans d'ordinateur diffusant ce qui se passe dans les abattoirs, ce qui se passe dans les cirques, toutes les maltraitances qu'on peut imaginer. D'autres avec simplement des affiches s'ils n'ont pas justement d'ordinateur. Et ils sont silencieux comme ça en carré et ils cherchent à sensibiliser le public. Donc ça se passe dans les villes parce qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de monde, mais les gens viennent de la campagne pour participer à ces cubes. Il y en a par exemple à Aix, à Montpellier. Enfin, j'ai fait un entretien avec quelqu'un de Montpellier qui n'habite pas à Montpellier-Centre, mais qui vient lorsqu'il y a ces actions. Donc même sur l'opposition ruraux-urbains, c'est assez diversifié.
D'accord. On peut, je pense que beaucoup de personnes sont prêtes à entendre et même à souscrire à la plupart voilà, des idées que vous avez présentées là, enfin, en leur nom, en votre nom, enfin, en tout cas des idées antispécistes. Mais j'ai l'impression que l'objection qui va revenir la plus souvent, ou en tout cas l'objection quand même très fréquente, ça va être de dire, bah, ok, je suis d'accord avec tout ça, en même temps, mon énergie, et notamment mon énergie militante, elle n'est pas infinie, donc bah, tant qu'à faire, je vais quand même me concentrer sur la défense des humains plutôt que des animaux, et du coup, voilà, je vais m'engager, je ne sais pas moi, pour la défense des
L'antiracisme,
salariés, des migrants contre les violences faites aux femmes plutôt qu'aux animaux. Même si je souscris à tout ce que vous dites, qu'est-ce qui répond à ça? Parce que c'est vrai que spontanément, ne serait-ce que parce que on est soi-même touché en tant que femme, en tant que salarié, ou parce qu'on s'identifie plus à nos semblables, les humains, ben oui, de fait, on est peut-être plus poussé à défendre des causes humaines que non humaines. Qu'est-ce que répondent les antispécistes par rapport à ça? Enfin,
Alors, avant de vous dire ce que m'ont dit les antispécistes que j'ai rencontrés, je vais vous dire ce que j'ai lu dans l'histoire, que la première partie de mon livre, c'est l'histoire de l'antispécisme. Et en fait, Bon, le terme antispéciste vient à partir de 1970, mais
On peut.
rétrospectivement, on peut penser que ces personnes qui se sont engagées pour les animaux pourraient être qualifiées aujourd'hui d'antispécistes. Et si on pense par exemple à Louise Michel, donc grande révolutionnaire, anarchiste, communarde, elle répond dès le début à cette attaque en disant, je cite de mémoire, donc ce ne sont pas exactement ces mots, mais la citation est dans mon livre, elle dit, du plus profond qu'il me souvienne, la première révolte qui me vient et celle qui anime toutes les autres, c'est la violence que j'ai vue exercer contre les animaux. Elle explique que de voir les paysans, parce que c'est évidemment une époque où la France est essentiellement rurale, les paysans maltraiter les animaux, c'est ce qui m'a révolté et c'est ce qui anime ma révolte aujourd'hui. Pour défendre les plus pauvres, les femmes, les travailleurs, etc. Et on trouve la même chose chez Marie Huot. Marie Huot, elle fonde en 1883 la Ligue contre la vivisection. Et en fait, bon, la vivisection, c'est les expériences sur les animaux, mais elle est aussi contre la corrida, contre tout le mal qui peut être fait aux animaux. Et pareil, elle dit qu'il n'y a pas du tout de concurrence entre l'engagement pour les humains ou pour les non-humains. Et si on va plus loin et qu'on reste encore dans l'histoire, Peter Singer, qui est une des figures fondatrices de la philosophie antispéciste, hein, il a publié en 1975 La libération animale, qui a été traduite dans toutes les langues, il note très justement, si on décide de devenir végane, ce qui est la première étape un peu pour un antispéciste, ou bien même avant de devenir végétarien, ça n'empêche en rien. C'est pas parce que le midi j'aurais pas mangé de viande que ça va m'empêcher l'après-midi d'aller exercer mes fonctions syndicales, d'aller manifester le lendemain contre les violences policières. En soi, la façon qu'on peut avoir de simplement renoncer aux produits d'origine animale, c'est quelque chose qu'on fait simplement lors du repas de midi ou du repas du soir ou du repas du matin, et ça ne gêne en rien. Enfin, en ce qui me concerne, Je suis devenu antispéciste il y a 3-4 ans seulement et j'ai conservé tous mes autres engagements, que ce soit pour aider les réfugiés comme je peux le faire à Vienne en Autriche, notamment en 2015-2016, et ensuite contre le racisme, contre les mutilations sexuelles. Ce n'est pas parce qu'on ne mange pas de viande qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose, quoi. Donc, cette accusation n'est pas tellement fondée.
Mais en même temps, il y a quelque chose que vous expliquez bien, je trouve, notamment en parlant de la différence entre vegan et antispéciste, c'est que être antispéciste, c'est plus que. Enfin, ça va plus loin que ne pas manger de viande. C'est aussi mener des actions, notamment, vous revenez beaucoup sur les actions directes, comme. Alors aujourd'hui, ça peut être rentrer dans un abattoir pour filmer ce qui s'y passe, parce qu'effectivement, quand on voit ces images, on est assez horrifié. Ça peut produire un espèce de choc moral chez un certain nombre de personnes. Ça peut être aussi tout simplement mener une opération pour libérer des animaux qui sont enfermés dans un zoo ou à tel ou tel endroit. Et ça va au-delà de simplement comment je mange le midi. C'est vraiment faire des actions
C'est
directes qui
ça.
prennent du temps, qui supposent de s'organiser, de se préparer, etc. Bon, là, pour le coup, effectivement, ça demande un engagement qui peut être assez chronophage. Mais je crois que c'est important. Et ce type d'ailleurs d'action directe peuvent expliquer en partie pourquoi, parce que vous le montrez très bien dans tout un chapitre du livre, pourquoi finalement quand on fait une généalogie de l'antispécisme, il se trouve que quand même pas mal des, on va pas dire des fondateurs, ce serait trop fort, mais plusieurs des précurseurs, des précurseuses, vous avez parlé de Louise Michel, sont issus du courant anarchiste, qui lui aussi pariait beaucoup sur l'action directe. Elle est intéressante, cette affinité entre anarchisme et
C'est vrai.
antispécisme.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, vous rappelez avec justesse qu'il faut vraiment différencier le véganisme de l'antispécisme. Le véganisme, ça concerne essentiellement l'alimentation, plus d'autres formes de boycott, boycotter les cirques,
Oui, ce que vous
boycotter,
disiez aussi.
voilà, c'est ça. Alors que l'antispécisme, c'est une attitude plus politique et plus philosophique. Et dans la partie politique, il y a évidemment l'idée de transformer la société, d'agir. Et là encore, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend énormément de temps et qui empêche d'autres engagements. Moi qui suis devenu donc aussi militant antispéciste, je combine les actions. Par exemple, je cours, je cours tous les jours, je suis marathonien, je montre aussi qu'on peut être vegan et
Et
sportif
en sportif,
sérieux. Et donc, je cours avec un t-shirt marqué Go Vegan. Donc, ça, ce sont des choses que certains antispécistes qui vont par exemple faire des libérations dans les abattoirs, etc., méprisent. Parce que pour eux, Go Vegan, c'est juste quelque chose qui est consumériste et puis qui ne va pas changer fondamentalement le fait que les animaux meurent en abattoir et que le système doit être changé, le système des abattoirs, de la consommation de viande. Mais en même temps que je fais ça, comme je cours à Vienne au parc de Schönbrunn, où il y a le plus vieux zoo d'Europe, et il m'arrive régulièrement d'accoster des gens et de leur dire excusez-moi, vous allez vers la prison des animaux? Et donc, ce moment, ces quelques secondes pendant lesquelles les gens sont un petit peu sortis de leur zone de confort et puis se disent mais pourquoi ils disent prison des animaux, c'est un zoo? Alors, des fois, les gens disent on va au zoo. Alors, je leur dis mais c'est quand même des animaux qui sont dans des cages et on peut appeler ça une prison. Et donc, souvent, la discussion commence comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps et qui va m'empêcher d'agir dans d'autres domaines, quoi.
Ces dernières années, en tout cas dans le cas de la France, on a effectivement de plus en plus entendu parler d'antispécisme, notamment à deux occasions. Là, je reste sur les modes d'action. C'est qu'il y a eu donc les vidéos filmées dans les abattoirs, mais il y a eu aussi toute l'histoire des boucheries et des vitrines de boucheries qui ont été taguées, voire brisées, souvent la nuit, de manière anonyme. Ça a amené, alors ça, c'est le traitement médiatico-politique qu'en a été fait. Ça a amené un certain nombre de responsables politiques et puis d'éditorialistes à vraiment pointer du doigt un mouvement qui serait violent, qui serait radical. Et on sait qu'aujourd'hui, radical, les radicalités, vous l'analysez bien dans ce livre en développant un peu toute cette. Vous faites une analyse de ce champ lexical de la radicalité qui permet comme ça d'amalgamer tout ce qui dérange, en fait. Enfin, je veux dire, en mettant vraiment dans le même sac des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui vont de ceux qui partent en Syrie aux zadistes, en passant désormais par les antispécistes. journaliste. Comment est-ce que, alors bon, voilà, au-delà de ce traitement médiatique, est-ce que quand même dans ces actions contre les boucheries, elles témoignent dans le fond d'une forme, oui, de radicalisation, et je laisse de côté l'aspect péjoratif du terme, hein, mais est-ce que ça témoigne d'une forme de radicalisation du mouvement antispéciste ?
Alors d'abord, faut rappeler que radical, ça vient du latin radix, qui veut dire la racine. Donc être radical, c'est aborder un problème à la racine. Et c'est un peu ce que font les antispécistes. Donc en ce sens-là, les antispécistes, contrairement aux véganes, sont radicaux puisqu'ils vont à l'origine du problème, qui est le fait qu'on décide que l'homme a tous les droits sur tous les autres animaux, influencé justement par deux millénaires de judéo-christianisme. Et donc l'attitude est radicale dans la mesure où elle remet en cause quelque chose qui est très fortement ancré dans nos sociétés occidentales, mais beaucoup moins, par exemple, en Inde, où il y a une autre conception de la place de l'homme dans le vivant, etc. Bon, ceci étant posé, être radical, ça peut être simplement avoir un principe de cohérence qui va justifier toutes nos actions en fonction de cette idée, en l'occurrence de l'antispécisme. Si on s'intéresse aux gens qui ont tagué des boucheries, bon, faut savoir que souvent, par exemple, ce qu'a fait 269 Life, c'était de répandre du faux sang devant les boucheries le long du trottoir. Donc, à la première pluie venue, ou bien avec un seau d'eau, ce sang était déjà dispersé. Les tags, même chose, c'est un coup d'éponge, c'est pas non plus grand-chose. Et effectivement, il y a eu, je crois, une dizaine de vitrines. Surtout dans le nord de la France, qui ont été endommagés. Ce sont des vitrines qui sont assurées. Parler de violence, ça peut être un peu exagéré. Il peut y avoir violence si jamais les gens sont dedans, et dans ce cas-là, ils ont peur pour leur vie, ils se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer, comme toutes les banques qu'il y a entre Bastille, République, Nation, lorsqu'il y a des manifestations à Paris, où effectivement, parfois, il y a des vitrines qui sont éclatés là avec des gens dedans, et donc les gens ont peur, et je pense que ce ne sont pas des actions qu'on peut justifier. Maintenant, la façon dont cela est traité, c'est complètement disproportionné. Si on pense aux actions menées par les agriculteurs qui vont déverser des tonnes de fumier devant les ministères, qui ont brûlé le Parlement de Bretagne à Rennes, qui saccagent des postes de péage, qui crée des dommages pour la société incommensurablement plus élevés à travers les actions qu'ils choisissent d'entreprendre. Se focaliser sur une dizaine de vitrines, je suis vitrine, ça me paraît tout à fait exagéré. Et en fait, cette volonté de tuer le mouvement antispéciste à travers la condamnation d'une dizaine de vitrines qui ont été légèrement endommagées en France, avec la création notamment de la cellule Déméter, il y a maintenant un an, le ministère de l'Intérieur a créé une cellule pour spécialement espionner et essayer de mettre sous le boisseau les actions menées par des antispécistes. Ça traduit une gêne, ça traduit, selon moi, le fait que les antispécistes s'en prennent à un aspect fondamentalement critiquable de notre mode de vie, à savoir le fait qu'on tue 3 millions d'animaux terrestres par jour, et en plus de 10 fois plus si on compte les animaux marins. Et que c'est tellement dérangeant. C'est vrai qu'un vegan qui vous dit mais là, ce que tu es en train de boire, c'était pour un veau. Le veau, il a été tué pour que le lait de la vache, il aille pour toi. Puis, tu n'es pas un veau, tu n'as pas à manger ça. Ou bien un vegan qui vous dit, mais tu es en train de manger un morceau de cadavre broyé, là, ton steak haché. C'est quelque chose qui dérange. Et donc, une façon de réagir par rapport à cette approche qui est quand même assez forte des antispécistes, c'est justement de les condamner, de dire, ah oui, mais regardez, ils ont brisé des vitrines, alors que... En fait, les vitrines, c'est pas important, quoi.
Mais est-ce que c'est ça que je... Est-ce que ça dérange tant que ça? Parce qu'en même temps, on a l'impression quand même que toute, notamment, toute, enfin, toute, peut-être pas toutes, mais une grande partie des industriels de l'alimentation, et notamment les grandes surfaces, ont maintenant tous leur rayon. Alors, il y a le rayon bio, mais il y a aussi de plus en plus quand même aussi le rayon vegan. Et on a l'impression qu'il y a, voilà, du côté aussi bien voilà, de la grande distribution que même bah, tout simplement des consommateurs. En fait, il y a un engouement, une
Tout
espèce
à fait, ouais.
de mode, et je le dis
Ouais.
sans connotation, vis-à-vis du véganisme. Alors, peut-être pas de l'antispécisme, mais quand même pour le véganisme, on sent une espèce d'enthousiasme. Il y a des journées comme ça sans viande qui se développent. Donc c'est, enfin, voilà, je sais pas, parce que d'un côté, dans ce que vous décriviez, il y avait cette idée que ce serait un peu les nouveaux parias qu'on pointerait du doigt, qu'on réprimerait peut-être plus fortement que d'autres, que les agriculteurs notamment. Et en même temps, quand même, on a le sentiment que c'est quelque chose qui est.
Ah, mais je pense
C'est, ça fait
que
bien aussi d'être
oui, mais
végane.
l'explication est très simple. Le capitalisme fait feu de tout bois.
Oui.
Lorsqu'on voit le nombre de zoonoses causées par la consommation d'animaux,
De quoi,
les
pardon?
zoonoses, les maladies qui sont transmises à l'homme, mais qui sont au début des maladies animales,
D'accord.
le pangolin du marché de Wuhan, enfin, c'est sûr que ça a fait un peu réfléchir les gens. Il y a eu la grippe aviaire, il y a les grippes porcines, il y a eu la maladie de la vache folle à la fin des années 90. Les gens commencent à comprendre que manger de la viande, c'est pas bon pour la santé, que ça peut même être dangereux. Et donc, ils sont naturellement attirés par la possibilité d'avoir des équivalents végétaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les lois qui sont votées interdisent des dénominations comme steak végétal, comme lait d'amande, parce qu'en fait, le lobby agricole est tellement fort qu'ils arrivent à obtenir l'interdiction de l'expression lait d'amande. Pourtant, on dit toujours beurre de cacahuète, quoi. Mais ça, ils ne peuvent pas l'enlever parce que c'est quelque chose qui est. On a le droit de dire lait de coco, par exemple. On n'a pas le droit de dire lait d'amande ou bien lait d'avoine.
Oui.
C'est complètement ridicule. Et donc, sur le fait que les produits végétaux ont trouvé leur petit rayon dans les supermarchés, c'est simplement parce qu'il y a de la demande. C'est un marché en forte croissance. Et donc, les entreprises, même les entreprises qui font de la viande, ont bien compris qu'il fallait aussi prendre un peu de ce marché-là, quoi.
Oui, bien sûr. Comment vous expliquez, parce que vous le disiez au début, hein, le terme d'antispécisme, bon, qui apparaît dans les années 1970 à peu près, il est quand même calqué sur l'antiracisme et l'antisexisme. Et je voudrais vous poser une question sur la gauche, en fait, dans tout ça, enfin la gauche politique, quoi, le rapport entre la gauche et l'antispécisme, parce que autant, voilà, si on parle de l'antisexisme, c'est, on va dire, une cause. Enfin, naturellement défendu par les militants de gauche, de même pour l'antiracisme, qui est quelque part partie prenante en fait du combat pour la justice sociale. J'ai pas l'impression qu'on puisse en dire autant de l'antispécisme. C'est au sens où on retrouve parmi les défenseurs de l'antispécisme des gens qui peuvent appartenir à des familles politiques, bah, en fait même de droite, et voilà, ça va bien au-delà de la gauche. Et ça vaut dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que la gauche, dans son intégralité, est loin d'être entièrement de s'être entièrement convertie à l'antispécisme, alors que bon, au moins en principe et dans les mots, elle est normalement toute la gauche est normalement antiraciste et antisexiste. Après, dans les pratiques, c'est une autre question, mais vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait.
Comment on peut caractériser en fait ce lien entre antispécisme et la gauche? Et c'est peut-être pour ça, je disais au début de l'émission, qu'on voulait faire depuis longtemps une émission sur l'antispécisme, mais que nous, qui sommes un site de gauche radicale, on avait mis du temps en fait à organiser cette émission, alors qu'on aurait pu le faire plus tôt. Peut-être qu'une des explications de ce retard qu'on a, c'est que voilà, les liens ne sont pas si évidents que ça, hein, entre la gauche
Alors,
et
il y a plusieurs
l'antispécisme.
choses à dire. D'abord, on peut commencer avec Marx et Engels, pour rester dans l'orthodoxie de la gauche. À l'époque, donc on est au milieu du 19e siècle, Marx et Engels condamnent ce qu'ils appellent la sensiblerie, l'idée de défendre les animaux plutôt que les travailleurs. Donc, eux, ils établissent cette opposition. C'est lié au fait que les premiers mouvements qui vont s'intéresser aux animaux sont des mouvements qui naissent dans l'aristocratie. Et l'idée, c'est simplement de protéger les animaux. C'est ce qui donne naissance, par exemple, à la Société protectrice des animaux en 1848 en France. Ensuite, la première loi qui va un petit peu protéger les animaux, la loi Gramont en 1850. Et effectivement, ce sont des préoccupations qui sont dans le milieu aristocratique. Souvent, ce sont aussi des femmes de comte, des femmes de baron, etc. Et c'est quelque chose qui est vu comme du temps perdu, puisqu'on s'occupe des animaux alors qu'il faut s'occuper des travailleurs. Et donc, Marx et Engels sont des lignes que je cite dans mon livre assez critiques là-dessus. Mais en fait, l'idée de ces gens-là, c'était pas vraiment de protéger les animaux, c'était de protéger les hommes à cause de la violence qui était publique. C'est pour ça qu'ensuite on a mis les abattoirs en dehors des villes. Avant, les animaux étaient tués dans la rue, quoi, même à Paris. Et le problème, c'est que ça a causé de la violence parmi les hommes. Maurice Aguilon, un historien français, raconte que au 19e siècle, il y avait dans un milieu rural un petit garçon qui avait assisté à la saignée du cochon, parce que c'était quelque chose qui était tout à fait accessible à tout le monde, et qui avait vu comment on avait pendu le cochon, qu'on l'avait égorgé, et ensuite il avait fait la même chose avec sa petite sœur. Et on s'était dit, oulala, catastrophe, il faut arrêter de faire du mal aux animaux de façon si visible, parce que ça va corrompre l'esprit naturellement bon, un peu dans une approche rousseauiste de l'homme, et en l'occurrence des enfants. Donc c'est pour ça que les premières mesures qui ont été instituées visaient à réduire les mauvais traitements infligés aux animaux de compagnie et aux animaux domestiques. C'est notamment les charretiers qui traitaient très très mal leurs chevaux. C'est resté comme juré comme un charretier. Ça montre un peu que les charretiers traitaient mal leurs animaux. Et donc ce premier mouvement, c'est vraiment simplement la protection des animaux. Et ensuite, on en vient à la défense des animaux. Donc c'est là l'idée de reconnaître, on défend des personnes, on défend des êtres dont on pense qu'ils ont une propre autonomie. Et après, dans un troisième temps, donc la protection, défense, et puis ensuite la lutte pour les droits. Et donc la lutte pour les droits, ça vient plutôt au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et sur le rapport à la gauche, c'est vrai que le rapport de la gauche à l'antispécisme est assez complexe, parce que, et ça permet peut-être aussi d'aborder la question des analogies, les militants de gauche disent c'est ignoble de traiter les ouvriers comme des animaux. C'est ignoble de traiter les mineurs comme des animaux, de les parquer, de les faire descendre à la mine, de les traiter comme des animaux. Et donc en fait, l'idée, c'est que c'est la référence. Traiter mal les animaux, c'est normal, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que les travailleurs soient traités comme des animaux. Et les antispécistes pensent inversement qu'il faut traiter tout le monde mieux, que être traité comme un animal, c'est pas bien. Et que c'est les animaux qu'on ne doit pas traiter comme les ouvriers et que les deux doivent être bien traités. Donc c'est cette idée. Et là encore, Louise Michel raconte que dans ses écrits, dans ses mémoires plus précisément, elle écrit de tout temps l'esclave s'est vengé sur l'animal, au lieu de se venger contre le maître. Parce que c'est plus facile lorsque le charretier, par exemple, qui ne possède pas son cheval, mais qui est employé par une personne qui est riche, est tellement frustrée, tellement énervée par ce qu'elle subit, qu'elle traite mal son cheval parce qu'elle est énervée, parce que voilà, elle n'en peut plus. Et Louise Michel dit, mais sa violence ne doit pas se retourner contre l'animal, mais sa violence doit se traduire par une lutte contre l'oppresseur.
Alors, vous parlez des analogies. Effectivement, on retrouve dans le plaidoyer et le discours des antispécistes un certain nombre de comparaisons avec d'autres crimes. Enfin, ils considèrent les violences infligées aux animaux comme des crimes. Et pour essayer de faire comprendre aussi, de faire passer le message, il y a des analogies récurrentes. Je voudrais qu'on les aborde. Vous les traitez dans votre livre. C'est vrai que ça pose des questions assez lourdes et assez délicates. Bon, la première, d'abord, hein, c'est le parallèle qui est parfois fait, y compris dans des campagnes d'affichage publicitaire de la part d'associations antispécistes, entre d'un côté les abattoirs et de l'autre côté les camps d'extermination. Alors, bon, vous expliquez dans le livre, et je veux commencer par dire ça, je vais le résumer beaucoup trop rapidement, mais que quand même, y a historiquement, quand on regarde le lien entre les abattoirs et les camps d'extermination, on a quand même, et c'est vrai que c'est un peu troublant en le disant, mais on a quand même des liens historiques qui passent par l'intermédiaire de Henry Ford, au sens où Henry Ford, qui a mis en place ces usines, l'industrialisation, le travail à la chaîne, l'a fait en allant s'inspirer de ce qui se passait dans les abattoirs. Et Henry Ford lui-même, ensuite, a servi d'inspirateur à Hitler et à la mise en place de la solution finale. Donc là, il y a des, voilà, je trouve qu'il y a des éléments historiques qui sont intéressants que vous apportez. Et en même temps, quand même, il y a quelque chose qui est très dérangeant, en fait, dans cette comparaison, enfin, où, je veux dire, ça suscite de manière, moi, je trouve entièrement légitime, l'indignation d'associations, de mémoire, de la Shoah, enfin, je veux dire, mettre sur le même plan quand, parfois, vous le dites, on entend des discours du type, oui, il y a eu 12 millions de morts dans les camps, et puis 12 millions d'animaux qui meurent chaque jour, donc voilà, on fait un parallèle entre les deux, mais en fait, on parle pas de... Enfin, on parle malgré tout pas de la même chose, quoi. D'un côté, il y a des humains, et il n'y a pas de façon de le dire autrement. De l'autre côté, il y a des... De l'autre côté, c'est des poussins, des veaux, des poulets, mais c'est pas la même chose, en fait, quoi.
Bah, c'est pas la même chose, mais ce sont des vies qui sont ôtées, des vies de... Un agneau, il a envie de vivre, il a envie de continuer à téter sa mère, comme un humain, un bébé, a envie de pas d'être fracassé contre un mur par un nazi, mais de continuer à vivre avec ses parents. Ce qu'il faut bien dire au préalable, c'est que l'idéologie est foncièrement différente. L'idéologie des nazis, c'est exterminer les juifs, exterminer les tziganes, asservir les slaves, assassiner les homosexuels, assassiner les socialistes, les communistes et les handicapés, etc. Et j'en oublie encore. À travers l'élevage, il y a l'idée au contraire de générer autant que l'estomac humain en a besoin des animaux. Ensuite, les animaux sont tués. Alors si on parle la visée est évidemment complètement différente. Maintenant, si on dit, si on fait un parallèle entre la façon dont ont été exterminés 6 millions de Juifs et la façon dont sont abattus des animaux, ça ne veut pas dire que les Juifs sont des animaux. Et ça, c'est évidemment ce que peuvent comprendre certaines personnes. Mais récemment, j'ai lu, par exemple, sous la plume de Arno Klarsfeld, le fils de Serge et Beate Klarsfeld, qui est aussi engagé dans la cause antispéciste, il a dit, lorsque j'étais en Ukraine, que j'ai vu passer dans une gare ukrainienne un train d'animaux qui allait en direction de l'abattoir, j'ai pas pu faire autrement que penser au train qui passait sur les mêmes rails 70 ans plus tôt, rempli de juifs qui allaient dans les centres d'extermination, les centres de mise à mort. Il y a des parallèles flagrants, il y a le tatouage, il y a les ruses, par exemple donner un bout de savon aux juifs qu'on va emmener dans les chambres à gaz pour leur faire croire que ce sera la douche, l'idée aussi d'un flux qui ne doit pas s'arrêter, sinon les gens peuvent paniquer, il y a la même chose dans les abattoirs. Depuis les bouveries où les animaux sont parqués jusqu'à l'abattoir, il y a un trajet continu pour que les animaux ne prennent pas trop peur, ne paniquent pas. Il y a les façons aussi de récupérer les dents, les cheveux d'un côté, le cuir, les ligaments, etc., pour faire d'autres choses de l'autre. Donc d'un point de vue technique, il y a des choses qui sont similaires. Et en fait, je pense que c'est si les antispécistes ont recours à ce parallèle, hein, je dirais même pas que c'est une analogie, mais c'est juste un parallèle qu'on peut faire, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont tellement mal psychologiquement de voir que leurs amis, leur famille, toute la société autour d'eux, parce qu'il n'y a qu'en France moins d'un pour cent de gens qui sont véganes, et dans ce pour cent, il y a en plus des gens qui sont véganes simplement parce que, je ne sais pas, Madonna ou n'importe quelle chanteuse à la mode va dire ah, je suis végane, c'est vachement chouette pour ma santé, donc ils ne sont même pas antispécistes. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, moi, 0,3% peut-être des gens qui sont antispécistes. Ils ont une telle douleur de se rendre compte que voilà, chaque jour, 3 millions d'animaux sont tués en France, etc. Ils cherchent des moyens de faire comprendre ça aux autres. Et donc, ils évoquent des choses qui sont clairement, parce que 99,999% des gens vont dire que c'est horrible ce qui s'est passé
Oui,
aux
mais
Suisses.
justement, le but d'un. Enfin, parce qu'on arrive sur des questions de militantisme, et le but d'un militant, c'est de convaincre d'autres personnes qui ne le sont pas de se rallier quelque part à sa cause et à ses idées. Et est-ce qu'en faisant ce parallèle avec l'Holocauste, est-ce que le risque. Enfin, est-ce que c'est pas tout simplement contre-productif, en fait? Est-ce que ça risque pas de braquer la majorité des gens qui ne sont pas prêts, en fait, encore, enfin, intellectuellement parlant, à faire ce parallèle, et du coup, de se dire, bon, ok, antispécisme, je ne veux plus en entendre parler, franchement.
Je pense que
Alors
vous
qu'il y a
avez
d'autres
raison.
façons de
Ouais.
défendre les mêmes idées,
Justement, je
mais...
pense que vous avez tout à fait raison. C'est un discours qui n'est pas recevable parce qu'il est trop fort, ça laisse trop de place à des mauvaise compréhension. Les gens vont dire, mais c'est antisémite de dire que les Juifs sont des animaux. Donc du coup, c'est évidemment pas l'effet recherché. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et c'est ce que j'ai fait en lisant le livre de Charles Patterson, Un éternel Treblinka, c'est de montrer comment il y a des points communs dans l'histoire, dans la genèse de l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Voilà, juste pour rappeler ce que vous avez dit de façon un tout petit peu plus
Oui,
détaillée.
faites-le parce que je l'ai fait de façon très condensée alors
En
qu'il y a...
fait, il y a des allers-retours entre l'exécution, enfin dans les abattoirs, le fait qu'on met à mort des animaux et la mise en place de la solution finale et même avant l'opération T4, je vais en dire deux mots. D'abord, Henry Ford, donc c'est le père du Fordisme, l'idée du travail à la chaîne. Un ouvrier fait la même tâche, comme dans le taylorisme, mais en plus, il n'a plus à bouger, c'est l'appareil qui passe sur une chaîne. Et donc, Henry Ford a cette idée lorsqu'il voit les abattoirs de Chicago, qui sont énormes, qui sont comme les abattoirs industriels qu'on a aujourd'hui, dans les années 1880. Et donc, en voyant ça, il est émerveillé, il dit que c'est génial, il va faire la même chose avec ses voitures. Et au même moment, Henry Ford est un antisémite redoutable. Il publie le protocole des sages de Sion dans son journal, qu'il publie évidemment en anglais. Il écrit lui-même un livre, The International Jew, donc le juif international, qui est traduit dans toutes les langues. À son procès, Baldur von Schirach, donc un des éminents nazis, va dire: « Je suis devenu nazi à 17 ans en lisant Henry Ford. » Donc c'est un livre qui a une influence et qui explique aussi en partie, mais en partie seulement, mais tout de même, l'essor du nazisme en Allemagne. Et faut savoir que Adolf Hitler vénérait Ford, que dans le
Bien
bureau du
sûr.
NSDAP à Munich, il avait un seul portrait, c'était le portrait d'Henry Ford, qu'il en dit le plus grand bien, que c'est Henry Ford qui est le seul à avoir les plus hautes décorations possibles pour un étranger données par le Troisième Reich. Parmi les personnes qui mettent en place l'opération T4, donc de 39 à 40, qui vise à exterminer les gens qui sont décidés, quoi, qui sont conçus, vus comme handicapés. Ça peut être parfois des gens qu'on appelle asociaux parce qu'ils ne correspondent pas au modèle de société voulu par les nazis. On trouve des gens qui viennent du monde de l'élevage. Qui ont travaillé dans l'élevage. Le commandant de Treblinka, c'est un boucher. Il y a vraiment des liens comme ça entre le milieu des bouchers, de l'abattoir et des camps. Et puis, surtout, il faut rappeler, et là, c'est plus sur le plan philosophique, ce qu'ont fait les nazis, ça participe à ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est cette philosophie qui vise à améliorer, donc philosophie et politique, là encore, puisque c'est très concret, améliorer la race humaine, de eugénos, d'améliorer les gènes ou ce qui fait l'espèce humaine. Et donc on distingue l'eugénisme positif et négatif. L'eugénisme positif, c'est favoriser la reproduction des gens dont on pense qu'ils ont des caractères intéressants pour la société. C'est pour ça, par exemple, qu'aux États-Unis, on a fait une banque de sperme de prix Nobel en pensant qu'en prenant du sperme de prix Nobel avec des femmes belles, ça allait faire des gens intelligents et beaux. Donc ça, c'est risible, mais ça fait pas vraiment de mal, ça fait de mal à personne. Et puis l'eugénisme négatif, c'est limiter la reproduction des gens qui ont des gènes qu'on estime être négatifs. Donc par eugénisme négatif, il y a la volonté que les juifs ne se reproduisent pas. On va même les tuer pour ça, pour pas qu'ils puissent pourrir la race humaine hein, dans la pensée nazie. Et en fait, l'eugénisme, il est développé bien avant le nazisme, hein, au 19e siècle, autour de 1900, en Europe comme aux États-Unis. Et ce qui est tout à fait passionnant, de mon point de vue, c'est de voir que c'est au sein de l'Association des éleveurs américains, où il y a déjà une commission pour améliorer la race bovine, pour avoir évidemment des veaux, des bœufs qui grossissent plus vite et qui ont plus de muscles et moins de graisse, qui sont meilleurs pour faire de la viande, une commission pour les poulets, une commission pour les cochons, et ils vont créer une commission en plus pour améliorer la race humaine. Donc c'est vraiment dans la conception des éleveurs de se dire on va améliorer la race humaine et c'est ce qui donne par exemple la loi en 1924 qui va limiter le nombre de juifs qui sont autorisés à immigrer à Ellis Island parce qu'il y a des gens qui sont issus de cette commission et qui disent les petits Polonais souffreteux, tous ces juifs-là, ça va être mauvais pour l'homme américain, ça va donner des tarés, ça va donner des gens, des dégénérescences, etc. Donc là, on voit un lien historique. On peut pas, c'est pas qu'on est pour ou qu'on est contre, c'est que ce sont les faits. C'est que l'idée de l'eugénisme aux États-Unis, c'est le Eugenics Record Office à Davenport, naît vraiment dans le monde de l'élevage.
Mais alors, du coup, vu qu'on parle d'eugénisme, on est obligé de revenir à la figure de Peter Singer que vous avez mentionné tout à l'heure. Je redis en quelques mots quand même, qui est un philosophe donc australien qui est considéré parfois, alors à tort ou à raison, mais comme le pape un peu de l'antispécisme. Il publie dans les années 80 ce livre sur la libération animale qui, voilà, qui fait quand même office
De
de
référence.
référence. Et en fait, ce Peter Singer a par ailleurs, donc en même temps que d'un côté, voilà, il essaye de réhabiliter, réévaluer notre rapport et notre vision des animaux, il a quand même, comment dire, rabaissé certaines catégories d'humains. Enfin, il a tenu des positions, en fait, il a une conception philosophique de ce que c'est qu'une personne, qui sont quand même très centrées sur le modèle d'une personne adulte, bien portante, en pleine capacité de ses moyens, qui font que il a pu tenir notamment des positions infanticides en fait sur la possibilité de supprimer des vies de personnes handicapées ou d'enfants qui correspondraient pas à son modèle qu'il a de la personne humaine. Et là, du coup, quelque part, en tout cas, c'est l'accusation qui est souvent portée aux antispécistes via celui qui est présenté un peu comme leur plus grand théoricien, c'est que là, on met le doigt justement dans l'engrenage de l'eugénisme. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est problématique parce que ça donne l'image que derrière l'amour pour les animaux, il y aurait aussi peut-être une forme de haine pour les humains, ou en tout cas pour certains humains qui ne seraient pas assez conformes à son idée de la personne.
Je pense que les propos de Singer sont souvent un peu caricaturés. Son point de vue consiste à. Donc, c'est un philosophe utilitariste, c'est-à-dire que pour toute action, on voit ce que ça crée de positif et négatif, on essaie de choisir le meilleur bilan. Bon, là, je caricature vraiment l'idée de l'utilitarisme, mais au départ, c'est un petit peu ça. Ce qui veut dire, c'est que. Par exemple, si on fait une amniocentèse et qu'on voit que l'enfant qui va naître va être trisomique, des parents peuvent décider de ne pas avoir cet enfant. Moi, personnellement, j'ai trois garçons qui, heureusement, sont en bonne santé, donc là, je n'ai pas été amené à prendre ces décisions. Mais je peux concevoir que des parents décident. Pour une malformation très grave qui met vraiment en péril la vie de l'enfant et de penser qu'il va avoir une vie de souffrance, que c'est mieux de ne pas aller jusqu'à la naissance. C'est aussi un petit peu l'idée du droit à l'avortement. Hein. C'est que voilà, une femme qui a été violée et qui ne vit pas du tout dans une situation qui lui permet d'élever un enfant comme elle aimerait le faire, décide d'avorter. Je pense que c'est son choix. De là à dire que c'est de l'eugénisme,
Mais
je ne pense
moi,
pas.
j'ai pas lu
Mais.
le livre de Peter Singer, mais il me semblait que ça allait plus loin que ça, que c'était pas simplement une défense du droit à l'avortement, parce que
Non,
ça pose pas de.
après.
Et même pour les maladies dont on peut détecter avant la naissance, bon, ça, c'est plutôt consensuel, mais il me semblait que ses positions étaient quand même. Enfin, voilà,
Non, il se pose la
aller plus
question
loin.
sur une vie vaut-elle d'être vécue et de la souffrance que ça génère. C'est dans cette rupture que nécessite l'antispécisme par rapport à la pensée judéo-chrétienne de se dire, c'est aussi le débat qu'on a sur la fin de vie. Est-ce qu'on doit maintenir en fin de vie des gens qui sont dans des souffrances atroces en disant mais oui, mais il est vivant, faut le laisser vivre. Il y a eu le débat là, sur cette personne, j'oublie son nom, qui a été
Oui,
débranchée, rebranchée, etc.
oui, oui, je vois.
Ce sont des questions philosophiques. Et Peter Singer est d'avis que lorsqu'il y a trop de souffrance, une vie n'est pas forcément digne d'être vécue. C'est pas un aspect vraiment majeur. Souvent, on l'accuse aussi d'être zoophile, parce qu'il a été interrogé dans un talk show sur le fait que certaines personnes avaient des rapports sexuels avec des animaux. Et il a répondu, si c'est vraiment dans le consentement absolu et que ça fait du bien à l'humain et à l'animal, et qu'on est sûr que l'animal n'est pas forcé, maltraité dans ce rapport. Selon lui, il n'y a pas forcément de problème. Là encore, c'est des choses qui sont tellement en rupture par rapport à la société judéo-chrétienne dans laquelle c'est vraiment satanique d'avoir des rapports avec des animaux, que les gens souvent reviennent que là-dessus. Je pense que c'est vraiment à des propos assez anecdotiques par rapport à l'ensemble de ses écrits.
Mais ça pose une question qui est difficile à trancher, c'est celle du consentement effectivement des animaux. Comment est-ce qu'on sait qu'un animal consent bon, à avoir une relation sexuelle avec un humain? Et comment est-ce qu'on sait, pour élargir la question, que, je ne sais pas moi par exemple, que les animaux ou telle catégorie d'animaux, je ne sais pas moi les poulets, consentent à ce que des humains se posent comme leur porte-parole et défendent leurs droits au sein d'un parlement. Enfin, comment est-ce qu'on sait que les animaux consentent à ça? Alors, certes, on peut dire personne n'a envie de souffrir, mais et les animaux non plus n'ont pas envie de souffrir. Peut-être, mais ça, c'est une pétition de principe. Comment est-ce qu'on mesure le consentement des animaux? On n'a pas encore établi de langage entre eux et nous.
Alors, c'est vraiment deux choses différentes et importantes que vous abordez. Je vais répondre sur les deux points. Le premier, là, par rapport au consentement, moi, personnellement, je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais ça m'est déjà arrivé de caresser un chat et puis de lui faire des petits guilis et puis de voir le chat qui se met comme ça et qui manifestement est content d'être caressé. Voilà, donc je pense qu'on a tout à fait moyen de voir si un animal est content ou pas de l'action qu'on a sur lui. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas parce que l'animal ne peut pas dire oui, je suis vraiment content des petites caresses que tu me fais qu'on peut en douter. Et l'autre chose est beaucoup plus problématique. Vous avez mentionné tout à l'heure la difficulté qu'ont souvent les gens de gauche avec les antispécistes. Il y a la même chose avec les anarchistes, qui souvent sont de gauche, mais pas nécessairement. Les anarchistes, certains anarchistes disent les animalistes, ça ne va pas du tout, parce qu'ils prennent la place des animaux et on ne sait pas au nom de quoi on aura envie de parler à la place de la poule. C'est une objection qu'on peut entendre. C'est vrai que les antispécistes n'ont pas été démocratiquement élus par l'Assemblée des cochons pour décider qu'il fallait les défendre. En fait, les animaux, lorsqu'on leur laisse la possibilité, on voit qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'abattoir. Il existe des milliers de cas d'animaux qui sautent du camion, d'animaux qui essayent d'éviter le pistolet perforateur de crâne. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que l'animal n'a pas envie d'être tué. Seulement, il est dans un état qui ne lui permet pas du tout de s'évader parce que la coercition de l'homme est si forte qu'il n'en a aucune possibilité. Et de la même façon qu'il y a des hommes qui sont avec les femmes pour les luttes féministes, des adultes qui sont pour que les enfants ne soient pas. Non, mais ce n'est pas les enfants qui ont demandé à ce que la fessée soit interdite en France. Il n'y a pas eu d'assemblée d'enfants pour dire s'il vous plaît, on aimerait bien que plus avoir de fessée. Seulement, il y a des adultes qui ont pensé que la fessée, c'était pas bien, qu'on allait l'interdire. Et donc là, c'est pas très très compliqué. Les antispécistes se disent de même, les animaux n'ont pas envie d'être tués, donc on va demander à ce qu'on arrête de les tuer. Ou bien les porcs ont pas, les porcelets n'ont pas envie d'être castrés à vif, ce qui est fait actuellement. Donc on va essayer de mettre une loi pour qu'ils soient plus castrés à vif. C'est sûr qu'un porcelet n'a pas envie d'être castré à vif. C'est sûr qu'un poussin mâle dans un élevage de poules n'a pas envie d'être gazé ou broyé directement dans une machine pour faire de la viande pour animaux. Voilà, donc la question de la représentation, même chose, on donne des droits aux handicapés, même si les handicapés qui sont des handicapés cérébraux lourds n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc le fait de ne pas être élu par l'Assemblée des poules n'est pas un très gros problème.
On arrive vers la fin de cette émission. Il y a deux questions quand même encore importantes en suspens que j'aimerais aborder. La première, c'est celle de l'islamophobie dans le mouvement antispéciste français actuellement. Je pose la question parce qu'il y a un, alors c'est un collectif parmi d'autres, hein, c'est pas le seul, mais qui s'appelle Boucherie Abolition. Vous en parlez dans le livre. Je crois que sa porte-parole ou une de ses porte-paroles, Sylvie
Solveig à loin.
Solveig Allouin. Voilà, quand bon, j'ai fait l'exercice juste avant de venir, on tape son nom sur Internet. Très rapidement, on tombe sur un texte où elle dit l'islam, l'islam hein, en tant que tel, l'islam est un fascisme. Et elle développe, elle a deux arguments. Elle dit est un fascisme, premièrement, en raison des pratiques barbares qu'ils ont vis-à-vis des animaux, et puis deuxièmement, parce que ils voilent leurs femmes, c'est voilà, une dictature patriarcale, etc. Bon, elle fait pas dans la nuance hein, en termes d'islamophobie, cette dame et son mouvement. Et bon, alors quelque part, ça va au-delà d'elle, parce que Brigitte Bardot, par exemple, qui a été choisie à un moment un peu comme égérie aussi du Parti animaliste français, là, qui a fait 2% aux européennes, pareil, Brigitte Bardot, bon, on la connaît pour sa défense des animaux, mais on la connaît aussi pour voilà, ses propos racistes à l'encontre des musulmans. Est-ce que hein, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Parce qu'il semble quand même qu'il y ait un problème à ce
Alors,
niveau-là.
on peut dire plusieurs choses. D'abord, Solveig Allouin, donc de Boucherie Abolition, c'est même pas tout Boucherie Abolition, c'est une personne, mais une personne importante. Je crois qu'elle est fondatrice ou
Et elle est
cofondatrice de.
toujours, elle est très souvent
Et
sur les plateaux
voilà.
télé, elle
Alors,
est en roue
là
libre.
encore, c'est comme les vitrines. Elle est invitée sur les plateaux télé, justement parce qu'elle va faire le buzz. Elle est invitée sur le plateau télé parce qu'elle tient des propos qui sont choquants. Et donc,
Mais
dans
son
toutes les.
mouvement peut se
Voilà.
désolidariser d'elle,
Voilà.
la destituer, enfin j'en sais
Oui, mais c'est un mouvement qui n'est pas
rien. D'accord.
très, très organisé. Mais il y a des gens qui ont quitté le mouvement. Par exemple, j'ai interrogé dans mon livre Vincent Aubry, qui était une figure importante de Boucherie Abolition, ainsi que Alizée Denis. Et les deux ont quitté Boucherie Abolition, voilà, pour différentes raisons, mais à mon avis, qui ne sont pas étrangères au fait que Solveig Allouin tient ces propos-là. La plupart des antispécistes condamnent ces propos. La plupart, d'ailleurs, ne sont pas religieux, mais pensent, sont athées, et pensent qu'il n'y a pas de raison de s'attaquer plus à l'islam qu'au christianisme, que la situation des femmes dans l'islam n'est pas pire que ce qu'elle est dans les sociétés chrétiennes traditionnelles. Et qu'il y a aussi des islamistes progressistes qui traitent bien les femmes ou qui accordent aux femmes un rôle important, comme pareil pour les chrétiens ou les juifs. Concernant le voile, il y a aussi des juifs ultra-orthodoxes qui imposent, ou qui du moins, pas qu'ils imposent, dans leur culture, les femmes doivent porter une perruque, donc c'est guère plus enviable que le voile. Donc ces propos-là, en fait, ils sont pas vraiment liés à l'antispécisme. L'antispécisme, c'est vraiment prendre en compte les intérêts des animaux. C'est pas aller s'attaquer à d'autres femmes. Et on peut même, dans une position antispéciste qui consisterait à essayer de limiter la souffrance, comme je l'ai dit, la souffrance des humains comme des autres animaux. Manifestement, si on va arracher le voile d'une femme voilée, comme Solveig Allouin a appelé à le faire, ça crée de la souffrance, que cette femme va être en souffrance du fait déjà de se faire agresser. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue antispéciste, peut être condamné. Donc il n'y a pas trop lieu de s'étendre là-dessus. Et puis, sur l'autre aspect que vous évoquiez, c'était.
J'ai parlé de Brigitte Bardot
Ah
aussi,
oui,
parce
Brigitte
que
Bardot.
c'est un peu
Alors,
le. Enfin,
ça c'est quelque
ça
chose
pose un
qui est vraiment
peu.
important. Effectivement, Brigitte Bardot est une personne qui a été condamnée pour racisme 7 ou 8 fois par les tribunaux. Donc, on peut, sans trop prendre trop de risques, la qualifier de raciste. Mais bon, elle n'a pas été égérie du Parti animaliste. Elle a soutenu le Parti animaliste et le Parti animaliste a fait le choix de faire état de ce soutien. Elle dit, voilà,
D'accord.
on est soutenu par XY et Brigitte Bardot. Bon, c'est un choix qu'ils ont fait que personnellement, je n'aurais pas forcément fait. Mais ce que peuvent argumenter des antispécistes comme David Olivier, avec lequel je me suis entretenu de ce sujet-là précisément, c'est de dire le racisme n'est pas pire que le spécisme ou que le sexisme, et que de la même façon que dans une manif antiraciste, on peut avoir comme porte-parole quelqu'un qui, par ailleurs, bat sa femme. Les antispécistes peuvent avoir quelqu'un qui, pas dans leur rang, qui par ailleurs est raciste, et que c'est pas parce qu'on est antispéciste qu'on doit forcément être un être parfait, et que donc, voilà, on peut être antispéciste et être, par exemple, capitaliste ou,
Mais si on veut favoriser une espèce de convergence des luttes, et vous insistez quand même
voilà.
pas mal dans le livre sur l'intersectionnalité, cette volonté de
Exactement.
rapprocher les luttes, on évite quand même
Je
d'avoir
pense,
ce
ouais.
type
Oui, je pense que
de
c'est vrai.
figure qu'on met en avant d'une façon.
Tout à fait, ouais. Mais de
D'accord.
la même façon que certaines personnes de la lutte, je ne sais pas si,
Oui.
voilà, est-ce que Karl Marx traitait bien sa femme? J'en suis pas certain, quoi.
Et la dernière question quand même que je voulais aborder, parce que vous avez tout un chapitre sur Israël, la judaïté et l'antispécisme, et vous en profitez pour développer une notion que je trouvais vraiment intéressante, qui était celle de vegan washing, en montrant que, si j'ai bien compris, aujourd'hui le véganisme est vraiment promu par les autorités israéliennes et par Benjamin Netanyahou, comme voilà, un peu, il fait de son pays Israël, l'Eldorado maintenant du
Exactement.
véganisme. Et là, vous avez une analyse très intéressante, tout comme on a pu parler de
Pinkwashing.
pinkwashing. Voilà, merci, je cherchais. Vous analysez le vegan washing
Ouais.
du gouvernement israélien. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que je trouvais
Alors,
ça très.
d'abord, juste pour replacer un peu le contexte, toutes les études montrent qu'Israël est le premier pays en nombre de véganes au monde. Donc, je suis allé là-bas à deux reprises pour un peu essayer de mener l'enquête, essayer de comprendre pourquoi. J'ai fait des entretiens, rencontré les gens. Et il y a plusieurs choses qui expliquent le fait qu'il y ait beaucoup de véganes en Israël et pas forcément beaucoup d'antispécistes. D'abord, il y a parmi les religieux, il y a des rabbins qui disent la viande industrielle, elle n'est pas cachère parce que dans la Torah, il y a marqué qu'il ne faut pas faire souffrir l'animal et ce qui se passe là, c'est, ça ne va pas du tout. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont habitués à travers l'idée de nourriture cachère à réfléchir avant de manger, ne pas manger tout. Et donc,
Oui.
voilà, ils en viennent facilement à une alimentation végane. La cuisine, la gastronomie le permet aussi avec falafel, houmous, légumes, tout ça. C'est pas dur d'être végane en Israël. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont devenus antispécistes, donc là militants, parce qu'ils étaient déçus de leur engagement pour une solution au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'après parfois 2, 3 décennies d'engagement, ils n'ont rien obtenu, la colonisation continue, les plans d'annexion, etc. Et donc c'est échec sur échec, alors que dans la cause animale, ils ont du succès. Et là, effectivement, c'est là qu'on en vient à cette accusation de vegan washing. C'est que pour Netanyahou, c'est beaucoup plus agréable d'avoir la jeunesse qui manifeste contre les poules en cage plutôt que contre les bombardements à Gaza, comme ça arrive régulièrement, ou contre l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Donc le gouvernement décide de se présenter comme un pays vegan, donc soutient des associations qui vont certifier les commerces vegan à Tel Aviv. Quand on va demander un café latte, par exemple, la serveuse ou le serveur demande, vous voulez lait de noisette, lait d'amande, lait de coco. Voilà, c'est presque de tomber dans les habitudes. Et effectivement, il y a une volonté du gouvernement, de la même façon que Tel Aviv est un lieu où les minorités sexuelles peuvent s'épanouir, avoir leur propre culture. Le gouvernement israélien, par le ministère du Tourisme, publie des prospectus comme Tel Aviv, Israël, le pays de la liberté des minorités sexuelles. Et même chose avec le véganisme. Et donc c'est un peu comme il y a eu le greenwashing lorsque une entreprise comme Total va sponsoriser un marathon pour se redorer son image, le pinkwashing avec avec la volonté justement de parler de la liberté des minorités sexuelles pour ne pas parler du mur de séparation, de tout ce qui se passe, le traitement des citoyens de seconde zone pour les Bédouins, pour enfin, tous les manquements aux droits de l'homme du pays. Et donc c'est quelque chose qui est assez fort. Et en fait, l'accusation de veganwashing, elle est un peu théorisée par les animalistes palestiniens. C'est eux qui développent vraiment cette notion en disant, oui, en fait, il y a beaucoup de véganes en Israël, mais peu d'antispécistes.
Ben, il me reste juste à vous remercier encore d'être venu nous rendre visite. On a touché à beaucoup de sujets. J'ai appris beaucoup de choses en vous lisant. J'étais ravi de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que ça permettra à celles et ceux qui nous regardent voilà, d'avoir approfondi ce sujet de l'antispécisme. Et je recommande encore vivement votre livre Animal
Merci.
Radical. Merci.